Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Squarespace. Squarespace est la plateforme tout en un pour permettre aux entrepreneurs de se démarquer et réussir en ligne, et ce, quelle que soit la taille de leur activité. Pourquoi est-ce que j'ai choisi Squarespace comme sponsor du podcast? D'abord parce que je sais qu'ici vous êtes très nombreux à entreprendre, avoir un podcast ou un projet qui nécessite d'être valorisé sur un site web. Et que Squarespace propose des outils vraiment simples d'utilisation pour avoir un site beau, propre et efficace en un minimum de temps. Quelques exemples de fonctionnalités, des templates de sites web personnalisables et adaptatifs pour créer des sites beaux et design en un temps record. L'outil email, le nerf de la guerre pour développer votre activité et communiquer avec vos clients. Ou encore leur outil SEO intégré pour émerger sur Google sans être un produit métier. Alors si vous voulez donner à votre business toutes les chances de se développer, je ne peux que vous recommander d'aller sur le site squarespace.com. En plus, Squarespace vous offre moins 10% sur votre première commande de site web ou de domaine avec le code Pauline. N'hésitez pas et rendez-vous sur squarespace.com, code Pauline. Mes chers amis, bonjour, ici Pauline Léniaud et vous êtes avec moi aujourd'hui sur un nouvel épisode de mon podcast. Pour ceux qui ne les connaîtraient pas encore, ce podcast, c'est un moment où j'ai l'habitude d'inviter des personnalités toutes plus exceptionnelles les unes que les autres, des chercheurs, des scientifiques, des athlètes, des entrepreneurs et aujourd'hui un professeur de psychologie, de management à l'ESCP, qui est spécialiste d'un thème qui me tient à cœur, l'optimisme, la chance, l'audace. Vous avez certainement reconnu de qui il s'agit. Il s'agit donc de Philippe Gabillet, que j'ai le plaisir d'inviter avec moi aujourd'hui. Nous avons parlé donc avec Philippe évidemment de ses sujets de prédilection, la chance, comment réussir à la cultiver, à la susciter, comment la voir aussi quand elle passe devant nous. J'ai également parlé beaucoup d'optimisme et je trouve que Philippe a été contre un certain nombre d'idées reçues très intéressantes à ce sujet. On a aussi parlé du temps long. Et à ce sujet, pareil, je trouve que la patience, qui est une des valeurs que Philippe met en avant dans ce podcast, est fondamentale. Bref, je pense que cet épisode va beaucoup vous faire réfléchir, comme ça a été le cas pour moi. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et si vous souhaitez contacter Philippe, eh bien c'est très simple, vous pouvez le faire sur son site internet philippegabillet.com, que je vous mets dans les notes de l'épisode, mais aussi bien sûr sur LinkedIn. Je suis sûre qu'il sera ravi de savoir si l'épisode vous a plu. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Philippe Gabillet. Bonjour Philippe.
Bonjour Pauline.
Écoutez Philippe, je suis enchantée, vous ne le savez pas, mais en fait il y a plein de raisons pour lesquelles je suis enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Déjà parce qu'en fait on a un ami commun, je crois, qui s'appelle Alain Bloch, que je salue au passage.
Et qui a été mon directeur de thèse, vous voyez.
J'ai lu ça en faisant mon travail sur vous, et moi il n'a pas été mon directeur de thèse, mais je le salue parce que ça a été pendant longtemps le directeur d'HEC Entrepreneur, et moi qui m'a un peu changé la vie comme école, et donc bref, ça, les grands esprits se rencontrent, si je puis dire, donc je suis absolument ravie d'avoir ce lien avec vous. Et puis d'autre part, ça faisait un moment que je me disais, Philippe, il faut absolument que j'aille sur le podcast, on a mis du temps à le faire, mais voyez, mieux vaut tard que jamais.
Voilà.
Alors Philippe, si ça vous va, je voulais commencer par parler de votre livre « L'éloge de la chance ». Il y a une citation que j'ai trouvée vraiment intéressante, j'aimerais vous la lire et que vous développiez, parce que je trouve qu'elle va contre les idées reçues, et même je crois, pour tout vous dire en préambule, que tout le monde ne va pas apprécier cette citation, parce que quand vous dites ça, vous nous mettez un peu devant nos responsabilités. Donc la citation est la suivante. « Je me rends compte que la chance est non seulement une compétence, mais aussi une compétence qui se travaille. » Je veux dire que ceux qui ont de la chance à répétition en sont responsables. Et ceux qui ont des coups durs à répétition en sont aussi responsables, du moins partiellement. Donc, je trouve que cette citation est très intéressante, comme je le disais, parce que elle va un peu contre l'idée que la chance, elle nous tombe dessus, de manière complètement irrationnelle. Donc, j'aimerais parler de ça. Et puis, aussi de cette notion de responsabilité aussi face à sa chance et face à l'optimisme.
Oui, alors c'est effectivement, moi je comprends que ça puisse perturber un certain nombre de personnes. Il faut bien être clair, hein, c'est quand on parle de la chance à répétition, c'est-à-dire on parle des gens qui ont qui donnent l'impression que ils sont toujours sur les bons coups, ils rencontrent toujours les bonnes personnes, ils ont les bonnes opportunités. Donc ce qui est problématique, enfin ce qui est intéressant, hein, c'est vraiment la chance, on va dire à répétition, quoi, la chance durable. Et quand on parle de responsabilité, alors, pour être tout à fait honnête, le livre, il a été écrit, la première version d'Éloge de la chance avait été écrit en 2012. Et j'étais encore sur cette notion de responsabilité, mais dont je me suis un peu éloigné depuis, parce que la notion de responsabilité, en particulier dans la langue française, renvoie à la notion de morale, quoi. Bon. Or, c'est pas un problème de morale. Moi, je suis revenu en fait à Paul Ricoeur, qui parle plutôt d'imputabilité. C'est-à-dire que quelqu'un qui va avoir de la chance à répétition, qu'on le veuille ou non, il ou elle y est pour quelque chose. Bon, et de même, quelqu'un qui va littéralement enchaîner les pépins, les revers, les rendez-vous ratés, qu'on le veuille ou non, il y a à un moment donné une part qui lui est imputable. Et tant qu'un individu, et Dieu sait que les travailleurs sociaux le savent parfaitement, les psys le savent parfaitement, tant qu'on n'a pas réussi à faire toucher du doigt un individu en quoi il ou elle, dirait, a une part effectivement de responsabilité dans ce qui lui arrive, tant qu'on est sur la croyance de la fatalité, le mauvais sort, etc., il est quasiment impossible de s'en sortir. Et ça n'enlève rien, attention, à l'existence de la fatalité. Il existe effectivement un certain nombre de choses qui sont fondamentalement aléatoires, injustes, qui nous tombent dessus. Mais une fois de temps en temps, mais lorsque ça prend un caractère régulier, la loose, si vous voulez, la loose ne peut pas, je dirais, s'expliquer uniquement par des conditions sociales. C'est la faute au système, c'est la faute aux riches, c'est la faute aux gros, c'est la faute à la société, c'est la faute au capitalisme. Au bout d'un moment, je dirais, il faut un peu raison garder. Et la reprise en main de soi-même, d'ailleurs, hein, même par rapport à l'inattendu, elle passe aussi par cette claire conscience que notre vie, c'est pas l'imprévu qui nous tombe dessus, qu'il soit positif ou négatif. Notre vie, c'est ce qu'on va faire avec l'imprévu qui nous est tombé dessus, qu'il soit positif ou négatif. On est sur un travail de, je veux dire que le chanceux ou la chanceuse chronique, c'est quelqu'un qui vit en mode compost. C'est-à-dire que quoi qu'il lui arrive dans sa vie, en mode de déchets, accidents, difficultés, etc., il ou elle en fait quelque chose. Et c'est cette notion-là qui est absolument centrale, à mon avis, en développement de soi.
Donc au final, ce que vous dites, si je comprends bien, c'est que la chance ou la malchance, ça arrive à tout le monde, mais c'est ce qu'on en fait qui fait la différence, et d'où cette importance en fait de l'état d'esprit et de la manière en fait dont on va réagir, quoi, au coup dur ou au coup de chance.
Et de toute façon, la chance n'est pas opposable à la malchance. C'est-à-dire qu'on est sur toute vie humaine est faite de bifurcations dont on se serait bien passé. Parce que voilà, on va avoir des pépins, des échecs, des accidents, on va être trahi parfois par des gens, on va perdre des gens qu'on aimait. Mais ça s'appelle la vraie vie. Et la caractéristique du chanceux, c'est que face à ces événements dont il ou elle se serait bien passé, des décisions ont été prises pour essayer de passer à autre chose. Or, de là à dire que tout dans la vie, les pires choses, les pires échecs peuvent être transformés en opportunités, alors ça, franchement, c'est de la psychologie de bistrot. Non, il existe effectivement des drames absolus qui sont impossibles à positiver. Comment voulez-vous positiver la mort d'un enfant? Comment voulez-vous positiver, la ruine totale d'une famille, d'un individu, etc. Il y a des choses qui sont fondamentalement dramatiques. Mais le réel humain, depuis la nuit des temps, a toujours été fait de ça. Et ce qui caractérise Homo sapiens, c'est que c'est une espèce qui est ayant conscience, en fait. Grâce à notre cerveau, on a conscience de ce qui nous arrive et on a une capacité que n'ont pas les autres animaux à se projeter dans un futur à moyen long terme. Et c'est ce qui fait toute la différence. C'est-à-dire que le point de vue, vous voyez, et d'ailleurs, et de l'optimiste et du chanceux, est de se dire, ce qui m'arrive en ce moment, par exemple, bon, c'est pas génial, je m'en serais bien passé, c'est pas cool du tout. Mais le problème, c'est que c'est là, quoi. Le réel est là. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir essayer d'en faire? Quand la douleur sera passée, quand la cicatrisation aura été faite, quand le deuil aura été fait, bon, je resterai avec toute cette vie qui me reste, ces nombreux jours et mois qui me restent à vivre. Qu'est-ce que je vais faire avec cette épreuve? Et on est dans une logique qui est d'ailleurs tout sauf c'est joyeux, c'est génial, etc. Moi, je suis devenu un adversaire au fil des années. J'ai beaucoup changé d'avis, moi, là-dessus. Hein. Le feel good, ça me sort par les yeux. Hein. Tout ce qui est le bonheur, le bien-être, etc. Le bonheur comme valeur suprême me semble être d'une sottise absolue. Non, le bonheur, c'est pas la chose la plus importante au monde. La chose la plus importante au monde, à mon avis, c'est plutôt la justice, la vérité et l'amour. Quoi, hein. Mais sûrement pas le bonheur. Le bonheur, c'est un peu cucul à praline. Mais,
Et pourquoi est-ce que vous avez changé d'avis sur ce sujet? Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé d'avis?
J'ai changé d'avis parce que, dans le fond, je ne me reconnaissais pas dans les gens qui disaient être d'accord avec moi. Et je dis, c'est bizarre ça, parce qu'ils sont censés dire, ah oui, oui, j'ai exactement la vie que vous avez, et on me sortait des choses, ils disaient, mais si moi je projette ce genre de choses, ça va pas du tout. Et même d'un point de vue philosophique, vous voyez, moi je crois beaucoup je fais partie de je suis rattaché intellectuellement au philosophe, je dirais, de l'optimisme tragique, hein, de comme Viktor Frankl ou Clément Rosset, donc des gens qui disent, de toute façon, la vie étant par nature tragique, puisque je vais disparaître, tous les gens que j'aime vont disparaître, et tout ce que j'ai créé dans ma vie, tôt ou tard, semblera dans l'oubli. Donc, la vie étant absurde, la seule solution, c'est la joie de vivre. La joie de vivre avec les autres, rendre les autres heureux, ça oui, ça c'est. Mais après, le bonheur pour soi, c'est des moments. Et les moments de bonheur, oui, pourquoi pas. Enfin, on peut pas passer sa vie à courir après des moments de bonheur. Il y a des choses plus importantes. Parfois, il faut accepter, je dirais, pour que la justice se fasse, pour que, je dirais, quand on aime les gens, on va accepter temporairement de pas être si heureux que ça, mais parce que on crée de la valeur pour autrui. On fait des choses qui feront sens, hein, et on fera la différence en ce monde. Je suis pas sûr que quelqu'un qui veut passer sa vie à vouloir être heureux, il puisse faire la différence en ce monde. Parce qu'il ou elle va trop regarder ce qu'il ou elle est, quoi. Si on est trop centré sur soi, à un moment donné, il y aura souci. Et pour ça, l'optimisme, de ce point de vue-là, c'était une idée d'optimiser le réel. Dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, avec ce qui est? Voilà. Et la chance, c'est ça. C'est se dire, je vais essayer, c'est un pari à chaque fois, hein, essayer de transformer un réel parfois, surprenant, mais pas dans le bon sens du terme, en quelque chose qui valait finalement d'être vécu. Et voilà, on est vraiment là-dedans. Mais avec cette notion d'imputabilité, c'est vrai, moi je reconnais, à laquelle je suis très sensible aujourd'hui, je pense qu'il y a un temps pour tout, mais le temps de la plainte, on doit les uns et les autres savoir en sortir. C'est-à-dire qu'on va être confronté à des choses difficiles dans la vie, professionnelles, personnelles, affectives, etc. On a le droit, à un moment donné, de dire, il y en a ras-le-bol, il y en a marre. Le temps de la plainte, il est normal, il fait partie du processus, mais il faut en sortir à un moment donné pour repasser au temps à l'action. Parce que, je dirais, la caractéristique des gens qui vont être trop dans la plainte non-stop, c'est que, ils vont ruminer et ils vont pas agir. Or, comment vous dire? Moi, il m'arrive très souvent, même avec des jeunes étudiants, alors encore plus avec des gens qui sont dans mes âges, mais de plomber un peu l'ambiance en disant, attendez, le temps passe, d'accord? La notion de temps qui passe, les gens ne se rendent pas compte matériellement de ce que ça veut dire. Mais, qu'on veut dire, imaginez que je vive une belle vie, vous voyez, mais vraiment une belle vie, 90 ans, mais en pleine forme, en ayant fait tout ce que je voulais faire. Bon, mais ces 90 ans, factuellement, ça aura duré 33 000 jours. Si j'ai vécu 90 ans en pleine forme, j'aurais vécu dans ce monde 780 000 heures environ, dont j'aurais passé d'ailleurs un tiers à dormir. Donc, c'est déjà pas mal, on peut faire des tas de choses avec ça, on peut changer la face du monde, mais le temps passe, quoi. Donc, à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce que j'ai assez de temps pour me permettre de perdre du temps à ruminer, perdre du temps à se fâcher avec quelqu'un durablement, perdre du temps à ne pas tenter quelque chose que j'aurais aimé faire? Oui, au bout d'un moment, le temps, dans le fond, ça n'existe pas. Le temps, ça n'existe pas, c'est de la vie. Hein. Quelqu'un qui vous dit « je perds du temps », en fait, il vous dit « je suis en train de perdre de ma vie ». Hein. Quand on a 18 ans, 19 ans, c'est pas un souci. Quand on a 65, on regarde différemment. Moi, je dis souvent ça à mes enfants. « Mais papa, tu te reposes pas assez ». Je dis « mais les filles, c'est des filles ». Moi, je dis « mais les filles, mais se reposer, c'est un truc de jeune. Vous avez tout votre temps, moi plus ». Donc j'ai plus le temps. Ouais. Je fais des choses qui m'intéressent. J'ai plus le temps. Me reposer, je dirais oui, s'il le faut, mais j'ai pas. C'est pas mon truc. Quoi. J'ai d'autres choses à faire. Je suis pas Highlander, moi. Donc Donc faut faire des choses avec le temps qui reste. Et je pense que la vraie problématique aujourd'hui, elle est là-dedans. Il me semble, en développement personnel.
Philippe, c'est vraiment extrêmement intéressant et notamment un point qui m'a marqué dans ce que vous disiez, c'était aussi la notion donc d'imputabilité, de plainte. Et puis, je tire le fil en disant le mot de victime, quoi. Et souvent, en fait, quand on est face à des difficultés, on se sent victime. On se sent donc affecté d'un mal qu'on n'a pas choisi, qui nous tombe dessus de manière, je disais, irrationnelle, en tout cas inattendue, quoi. Et donc, ce que j'entends, c'est que vous dites que la plainte, quand on est face à ce genre de situation, elle est normale. il faut la vivre, mais à un moment donné, il faut aussi savoir passer à autre chose. Et je voulais peut-être revenir là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, alors si je suis un peu dure, je dis ce qu'on plaise. Si je suis peut-être plus, comment dire, plus empathique, je dirais, et je suis comme ça moi-même, hein, qui en fait s'enferme dans une forme de victimisation qui est réelle, parce qu'en fait, il y a eu un choc, il y a eu quelque chose de négatif qui est arrivé. Mais comment en sortir quand on s'enferme là-dedans?
Bah déjà, comment vous dire, c'est, il y a eu la notion de zone de confort. Une zone de confort n'est pas toujours confortable, en fait, voilà. Et une zone de confort peut être parfois une zone de protection qui se nourrit de morosité, qui se nourrit même de ressentiment. C'est-à-dire que tant que c'est la faute des autres, je dirais, dans le fond, j'ai moi rien à me reprocher. C'est-à-dire que moi et moi-même sommes spectateurs des propres malheurs que le monde nous fait tomber dessus. Mais d'un autre côté, moi, je me méfie beaucoup de l'injonction. Au départ, quand j'ai commencé à travailler surtout sur l'optimisme, vous voyez, je voyais avec certaines de mes collègues, d'autres. Psychologue, sociologue. Et oui, bon, il vaut mieux être optimiste que pessimiste. Ben non, je suis navré. L'injonction, c'est presque toujours quelque chose qui tient pas la route. À part éventuellement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est pas trop discutable. Mais après, pour le reste, après, ça se discute vraiment fortement. Et la posture de victimisation, c'est un regard qu'on va porter sur ce qui nous est arrivé, on porte aussi sur les autres, mais dans le fond, la seule chose qu'on peut reprocher à la victimisation, me semble-t-il, c'est très personnel, c'est que la victimisation nous fait perdre du temps de vie précieux. Voilà, c'est ça qui est dommage, c'est une espèce de gaspillage existentiel. Car je dirais, voilà, on peut d'ailleurs parfois être victime, mais justement, ça s'appelle la vraie vie, parce que il y a des tas de choses qu'on peut pas changer, vous voyez, dans une vie humaine. Le monde n'est pas toujours juste. Parfois, c'est les salauds qui gagnent et les braves gens en prennent plein la figure. C'est comme ça. On n'est pas toujours payé de retour. On est parfois trahi, trompé. Notre confiance est mal placée, mais c'est la vraie vie, quoi. C'est ça, c'est ce qui se passe. Tout change, et puis tout change, et puis un jour tout finit. Il y a des réalités comme ça qui sont, je dirais, qui font partie du réel avec lequel il faut faire. Et malgré ça, je dirais, c'est ce que d'ailleurs c'est Nietzsche qui disait. Parce qu'il faut de toute façon, il faut être heureux et malgré tout. Jouir de la vie, se réjouir de la vie telle qu'elle est. Alors, en l'occurrence, c'est Spinoza, mais qui nous explique bien que trouver en fait dans le réel, dans la réalité, l'énergie pour continuer à avancer. Et c'est là où je voulais en venir avec les autres, parce que dans la victimisation, mine de rien, c'est bien beau de dire faut pas être victime. Mais quand on a ça dans la tête, c'est comme si on avait un bug dans le logiciel. Hein. Des gens qui sont victimes de ça, victimes de leur propre auto-victimisation, vous avez beau leur dire bah « Attends, secoue-toi, il faut que tu t'en sors », c'est pas évident. On a parfois besoin de rencontrer un tiers. Le tiers, ça peut être un travailleur social. Le tiers peut être un psy, un coach. Le tiers peut être un meilleur ami. Le tiers peut être un jour un de nos proches, un enfant, un parent qui va nous mettre un choc émotionnel, va nous mettre devant notre propre réalité. Mais c'est pas évident de s'en sortir par soi-même. Vous savez, s'il y a aujourd'hui un mythe incroyable dans l'univers du développement personnel, c'est quand on veut, on peut. Ça, c'est une des choses les plus débiles qui a jamais été racontée. Ben non, il y a tout un tas de gens, ils ont beau vouloir, ils peuvent pas. Ils peuvent pas parce qu'ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas la santé pour le faire. On a besoin d'être aidé. Et même, on voit d'ailleurs dans tous les parcours de résilience réelle, on se rend bien compte qu'à un moment donné, on a rencontré quelqu'un qui nous a alors ouvert les yeux, remis l'église au milieu du village, secoué, tout ce qu'on veut. Et parfois d'ailleurs, on pourrait presque dire que l'objectif premier serait de dire, mais voilà, qui je suis prêt à écouter pour voir mon monde différemment. Et d'ailleurs, vous savez, j'ai une chose qui m'a beaucoup frappé, moi, au début, parce que moi, j'ai quand même commencé à être sur ces sujets-là, j'avais 30 ans, quand même, donc j'en ai 65. Ouais. Donc, ça fait quand même, comme je dis souvent, ça fait 35
ans. Un petit moment.
5 ans que je suis dans le business. Et c'est vrai qu'au tout début, je faisais des séminaires assez jeunes. Déjà, j'ai animé pour des entreprises dans lesquelles je travaillais, des séminaires de développement personnel, de travail sur soi, tout ça. Et je me souviens très bien qu'on était dans cette espèce de modèle qui continue à être pratiqué par beaucoup de gens, qui est le modèle de l'objectif. Tu veux quoi, dans le fond? De quoi t'as vraiment envie? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce que tu aimerais réaliser? On est sûr, voilà, réapprends à te projeter dans un futur. Et un jour, je me suis dit, mais à un moment donné, je me dis, mais il y a un truc qui colle pas. Je pense que la question, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te ferait vraiment envie? Où tu veux aller? Cette question projective, vous voyez, dans le futur. Je pense qu'elle arrive trop tôt. Je pense que quand on fait un travail sur soi, la première question qu'on devrait se poser, c'est plutôt où suis-je aujourd'hui et dans quelle mesure c'est moi qui m'y suis conduit. C'est-à-dire, quelle est toi aujourd'hui ta responsabilité ou l'imputabilité, comme on disait, dans ce que tu es aujourd'hui, surtout dans la partie qui te plaît pas.
C'est-à-dire que état des lieux, lieux de la réalité, on remet tout, on voit les choses telles qu'elles sont.
Est-ce que tu as aujourd'hui, est-ce que tu as pris des décisions dans ta vie ou tu as refusé de prendre des décisions qui en fait t'ont amené là où tu es aujourd'hui? Tant qu'on n'a pas identifié, mais même si c'est microscopique, parfois des gens ont eu des tas de problèmes créés par leur environnement, leur écosystème, etc. Très bien. Mais tant qu'on n'a pas réussi à identifier la micro-part qui vient de nous dans celui ou celle qu'on est devenu aujourd'hui, on peut rien faire, quoi. Puisque c'est cette prise de conscience-là qui va commencer à nous montrer que on a des marges de manœuvre. Et la caractéristique de la victime, c'est qu'elle a le sentiment, à tort ou à raison, qu'à l'instant T, elle n'a plus de marge de manœuvre. Et tant qu'un individu a le sentiment qu'il n'a plus de marge de manœuvre, il rentre dans une logique psychologique d'impuissance. Et ça, c'est la cata, parce que vous mettez ensemble dans un cerveau humain défiance a priori par rapport aux autres. On peut pas faire confiance aux autres. Et deux, en plus, c'est impuissance. Et non seulement on peut pas faire confiance aux autres, mais en plus, de toute façon, on n'a pas vraiment de marge de manœuvre sur la réalité. Là, ça va être compliqué. Là, ça va devenir compliqué.
Oui, parce qu'on a l'impression de ne pas avoir d'emprise sur rien, quoi.
Quel est le rôle du travailleur social, du meilleur ami, du coach, du curé, de l'imam, de ce qu'on veut? C'est de dire, attends, voilà des zones de ta vie, voilà, tu peux avoir confiance. Tente le coup, fais le pari de la confiance, même si tu dois être trahi, et regarde un peu mieux quelles sont tes capacités à toi d'agir. Et je pense que quand on veut remettre quelqu'un sur pied, c'est sur ces deux piliers qu'il faut travailler. Expliquer à la personne que la confiance, c'est un pari, donc un pari défend le père. C'est comme ça. Mais tant qu'à faire, on a davantage de chances qu'il nous arrive des choses formidables en faisant confiance aux autres, au risque effectivement d'être trahi, trompé, déçu, etc. Et ensuite, on a effectivement des faiblesses, on a intérêt à se réconcilier avec, on a des vulnérabilités, il vaut mieux se réconcilier avec. Et ok, je suis comme ça, je suis pas parfait, je le serai jamais. Il y a beaucoup plus de choses dans la vie que je ne sais pas que de choses que je sais, j'ai beaucoup plus d'incompétences que de compétences, mais je ne peux faire la différence en ce monde qu'en identifiant en priorité là où je suis bon, là où sont mes qualités, là où sont mes capacités, et en poussant là-dessus à mort, quoi. Voilà. Donc, ce sont les deux piliers sur lesquels on peut accompagner quelqu'un.
C'est passionnant, Philippe. Et alors, je vais me lancer dans une question un peu personnelle, mais est-ce que vous avez déjà vécu un tel moment? Est-ce que vous pourriez nous en parler? Et justement, alors, votre cheminement pour d'abord vous refaire cet état des lieux, quoi, si j'utilise mes termes, c'est-à-dire se dire, OK, ben, je suis pas parfait. Voilà les moments où j'ai flanché, où j'ai faibli. Voilà mes faiblesses. Et puis, ensuite, cette deuxième partie de donner la confiance.
Alors, D'un point de vue strictement professionnel, moi au départ je suis un littéraire. Mais quand je dis que je suis un littéraire, je suis un vrai littéraire. C'est-à-dire les choses qui m'ont toujours intéressé, c'était vraiment la littérature, la poésie, le théâtre, voilà. Ça m'intéresse beaucoup. Les sciences humaines un petit peu, ça m'a un peu aidé. Mais c'est vraiment un truc qui m'a jamais intéressé, c'est ce que je fais aujourd'hui. Enfin, quand je m'explique, voilà, l'entreprise, le management, tout ça. Maintenant je peux le dire puisque je suis à 4 mois de ma retraite, donc de toute façon. Mais c'est dit.
On vous en tient par rigueur.
Mais c'est vrai que un moment de doute, ça a démarré assez tôt. Moi, je quitte l'université, je dois avoir 24 ans, 25 ans, dans les débuts des années 80, et je dis, je peux pas rester à l'université parce que à l'époque, il faut être docteur, il faut être agrégé. Et puis, est-ce que je veux vraiment faire une carrière universitaire? J'en suis pas sûr. Et je me mets en tête un truc invraisemblable. Je dis, tiens, je vais trouver du boulot. Je vais travailler. Mais travailler, les gens s'en souviennent plus aujourd'hui, les jeunes s'en souviennent plus aujourd'hui, mais en 83, il y a un truc qui s'appelle le chômage de masse. Et j'ai envoyé des centaines de CV, etc. Et tout le monde m'a dit, mais pendant ça a duré un an, cette affaire. Je me suis fait jeter de partout. Et là, j'avais un vrai doute, quoi, parce que mes parents, ils m'avaient aidé jusque-là, mais il fallait quand même essayer de faire quelque chose. Non, vous n'avez pas fait d'école de commerce, vous n'êtes pas juriste, vous n'êtes pas ingénieur, vous n'êtes pas scientifique. Retournez à vos chères études. Et ne trouvant pas de boulot, J'ai fait la seule chose que j'ai trouvée. Mon père, malheureusement, il m'a prêté à l'époque 30 000 francs, hein, ce qui devait être 5 000 euros d'aujourd'hui. Et j'ai créé un cabinet de conseil. Mais attendez, je ne savais pas ce que c'était le conseil. Hein. Mais
parce que vous n'aviez pas le choix, quoi. Parce qu'en gros, fallait.
J'ai eu un ou deux bouquins, dire, bah, tiens, bon, de pouvoir arriver à gagner un peu de pognon avec ça, j'ai essayé. Il faut de vous dire que je me suis viandé lamentablement. Mais ça a été une expérience intéressante parce que grâce.
C'était du conseil en quoi?
Relations humaines. Ce qui d'ailleurs était rigolo parce que relations humaines à l'époque, les conseils en relations humaines dans les années 80, c'était les agences matrimoniales. Donc il y avait parfois même certains clients, il y avait un. Mais vous vendez quoi exactement? Je dis non, c'était de la communication interne, des choses comme ça. Mais je me suis planté en termes de business, mais ça m'a permis de rencontrer des gens qui derrière, m'ont embauché pour faire d'autres choses et la chose est montée. Donc vraiment, je suis parti d'une situation où j'étais complètement coincé. Et puis voilà, au bout du compte, j'ai réussi à m'en sortir. Mais c'était mon problème à moi. C'était pas la faute au marché, c'était pas la faute. Idem, j'arrive à l'ESCP, qui voilà, mais j'arrive pour donner des cours, des vacations. Vous voyez, c'était il y a 30 ans, en 93. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Moi, je voulais rentrer là. Je me disais, je vais être prof dans une grande école, ça va être formidable. Mais le problème, c'est que j'étais pas docteur, j'avais pas les diplômes qu'il fallait, j'étais pas un chercheur, je venais du monde de l'entreprise. Bon, et il y a même des gens à l'époque qui sont devenus d'ailleurs des collègues, mais qui me disaient gentiment, écoute, t'es gentil, mais continue plutôt à essayer de travailler, trouve un boulot salarié à côté, puis donne des cours à côté, mais tu seras jamais prof, t'as pas le profil, quoi, c'est pas assez. Bon, eh ben, Alain Bloch, je dirais, qui était à l'époque mon prof, et un de mes collègues aussi, j'avais déjà 40 et quelques années, il m'a dit, mais si, tu vas voir, on va trouver un moyen de te faire avoir d'une thèse de doctorat, mais on fera ça au CNAM, il y a des conditions particulières et tout. Le jour où j'ai eu la thèse, comme par magie, en l'espace de 3 mois, tous les blocages que je traînais depuis 10 ans, ont disparu. J'ai soutenu ma thèse le 4 mars 2004. Le 1er avril, mon département demandait mon intégration dans le corps professoral. J'étais embauché par l'école le 10 mai. Et le 4 juin, très drôle, jour de mon anniversaire, le directeur général de l'époque me confie la direction académique de l'exécutif MBA, qui était le programme phare de l'école. Mon frère, qui était aussi un grand universitaire, mais dans d'autres domaines, m'a dit, mais c'est pas possible, t'as rattrapé 15 ans de carrière merdique en 3 mois. Je dis, eh ben oui. Mais j'ai eu de la chance aussi, mais parce que voilà, il y avait des gens qui avaient besoin de moi et les choses se sont goupillées comme ça. Mais moi, j'ai toujours cru à la responsabilité. Pour moi, dans ce qui m'arrivait, j'ai toujours cru à l'action, au pouvoir de l'action. Je donne souvent cette image, je dis que, j'aime beaucoup Shakespeare pourtant, mais dans Hamlet, Shakespeare fait dire à Hamlet la célèbre phrase « to be or not to be », être ou ne pas être. Alors, c'est sympa, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus adapté à notre époque. Nous, aujourd'hui, on vit à l'époque du « to do or not to be », c'est-à-dire c'est faire ou ne pas être, prendre une décision, agir, ou renoncer à devenir ce qu'on mérite de devenir. Et moi, en tant que prof, en tant que père, hein, avec mes enfants, j'ai toujours été, moi, un activiste, un volontariste. Il faut y aller, il faut agir. Il y a des risques. Eh ben, tant pis, raison de plus. On gérera derrière, on se débrouillera. Mais je crois profondément au pouvoir de l'action et de la volonté. Clairement.
Quand vous parliez tout à l'heure de ce passage, d'ailleurs très très rigolo sur la montée en puissance dans le monde universitaire, puis finalement grâce à Alain notamment le fait que vous ayez et grâce à vous bien sûr réussi à faire cette thèse, je retiens quand même donc cette notion de s'associer à des personnes ou de s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut. Et vous avez dit assez brièvement, mais vous avez quand même dit, bon, il y avait plein de personnes qui me disaient que ça allait jamais le faire, que c'était impossible, etc. Comment est-ce que vous avez fait pour bloquer, on va dire, votre langage intérieur qui fait que vous n'avez pas écouté ces 150 000 personnes qui vous disaient en permanence, ça ne va pas le faire? Parce que ça, en tant qu'entrepreneur, on l'a déjà entendu des milliers de fois, des discours soi-disant bienveillants ou protecteurs qui nous expliquent que notre vision est voie d'échec, en tout cas. Et pourtant, je vois bien là via cet exemple que c'est justement ce genre de discours qu'il ne faut pas écouter. Alors faut pas non plus faire n'importe quoi, mais à l'inverse réussir à s'entourer de personnes qui croient en nous et qui nous font trouver un chemin de traverse pour réussir à atteindre notre rêve, notre objectif ou en tout cas une vie meilleure.
Oui, alors après comment vous dire, ça renvoie d'ailleurs à une question qu'on rencontre souvent quand on forme des jeunes entrepreneurs. Moi, je l'ai fait à l'ESCP pendant quelques années, et j'avais toujours été très très frappé par le rapport qu'on entretenait à la notion d'opportunité, qui pour moi était une chose qui était souvent mal comprise. J'ai souvent dit, moi, à des jeunes qui me disent « Mais je suis en train de chercher l'opportunité. Quand j'aurai trouvé la bonne opportunité, là, je vais me lancer. » Et je suis convaincu que on ne trouve pas une opportunité. La meilleure façon de trouver des opportunités, c'est d'en être une soi-même. C'est-à-dire de se poser la question de pourquoi est-ce que des gens auraient intérêt à prendre langue avec moi, travailler avec moi, et ainsi de suite. Et ça, moi, je l'ai appris il y a très longtemps. C'est lui qui m'avait fait prendre conscience de ça. C'était un monsieur qui a été très important, moi, dans mon parcours intellectuel, qui s'appelait Pierre Doré, qui était l'ancien créateur de... Il avait refondu l'ICG à l'époque. Il avait créé aussi l'Institut européen du leadership. Moi, je l'ai connu, il était déjà très, très, très âgé. Et c'est lui qui m'avait expliqué ce qu'était le principe, ce qu'il appelait l'échange de valeur et d'utilité. Moi, qui est un principe qui a vraiment guidé mon parcours, et je l'ai passé à plein de gens, ils peuvent confirmer que ça fonctionne comme ça. Le principe de valeur et d'échange de valeur et d'utilité, ça tient en quelques mots très simples. La meilleure façon pour atteindre ses objectifs dans la vie, c'est d'aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. Point.
Alors attendez, je veux bien qu'on le répète.
La meilleure façon pour atteindre ses objectifs dans la vie, c'est d'aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. C'est-à-dire, dès l'instant où, je dirais, je me mets dans une posture où, je vais créer, dès l'instant où j'aide quelqu'un dont j'ai besoin. Or, si en plus je l'aime bien et tout ça, c'est encore mieux. Mais c'est pas le problème, on n'est pas dans l'affect. On est dans la dynamique sociale. Dès l'instant où j'aide quelqu'un dont j'ai besoin, ou dont je pourrais peut-être avoir besoin un jour, à atteindre ses objectifs, je sème une graine de réciprocité. Si ça se trouve, cette graine ne germera jamais. C'est pas grave. On n'est pas là pour que les gens nous renvoient l'ascenseur en permanence. Mais quelqu'un qui va passer sa vie, et en ce qui me concerne, je peux vraiment dire que j'ai passé ma vie à aider des gens à atteindre leurs objectifs. Mécaniquement, tôt ou tard, la graine de réciprocité germe. Et elle devient une boucle de réciprocité. Et à ce moment-là, quelqu'un autour de moi, lui ou elle, pour atteindre ses propres objectifs, il va avoir besoin de m'aider à atteindre les miens. Et c'est reparti. Donc, vous voyez, on est aussi dans cette notion du don, mais quelqu'un qui donne n'attend rien en retour au départ. Mais il n'empêche qu'à force de donner, on crée les conditions pour que tôt ou tard, il y ait des retours. Vous voyez ? Et là, moi, j'ai très frappé. Il y a un auteur qu'il faut absolument lire, qui est Jean-Édouard Grésy, qui a écrit ce livre extraordinaire qui s'appelle « Œil pour œil, don pour don ». Et il dit comment fonctionne en fait le don et la réciprocité dans nos sociétés. Et c'est une approche intéressante parce que dès l'instant où on fonctionne comme ça, dès l'instant où je me mets en tête, plus j'aide les autres à atteindre les objectifs, plus je me bâtis sur un système de réciprocité, c'est malheureusement d'une actualité brûlante, on se rend compte que quand on fonctionne sur l'hypothèse de réciprocité, même si ce n'est qu'une hypothèse, ou le pari sur la réciprocité, il devient absurde de se faire la guerre trop longtemps.
Voilà. Alors c'est très intéressant ce que vous dites, Philippe, parce que je pense que l'une des hypothèses sous-jacentes, c'est le temps. On en revient à cette notion de temps et le fait de devoir être patient. Parce que moi, j'ai plein de gens qui viennent me voir et qui me disent « Ah oui, mais je donne. Ça fait des mois que je crée, par exemple, des contenus sur les sociaux. J'ai l'impression de donner. » Et puis, en fait, j'ai rien en échange. Donc, déjà, premièrement, il y a une attente. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit « On donne, mais on attend tout de suite de recevoir. » Et vous, ce que vous dites, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on donne, mais on n'attend rien en retour. Deuxièmement, il y a cette notion de temps.
Surtout, parce qu'en fait, on donne à quelqu'un.
Voilà, vous, c'est 35 ans plus tard que ça arrive.
Oui, ou avant. Mais surtout, quand je suis désolé, quelqu'un qui dit oui, je donne sur les réseaux sociaux. Ah oui, mais ça, c'est, La Rochefoucauld aurait pu dire que si on donne aux gens des choses qu'ils vous ont pas demandé, je suis désolé. On n'est pas dans une boucle de réciprocité. C'est-à-dire, c'est quelqu'un me dit, je donne, mais faut valider derrière, dire, cher ami, tu donnes, mais excuse-moi, mais est-ce qu'il y avait une demande? Est-ce que tu es sûr et certain que, parce que si je donne un truc qui ne correspond pas à une demande, non. Et puis quand on donne pas des contenus. Quand je dis donner, c'est par exemple, grâce à moi, il y a des gens qui se seraient jamais rencontrés qui vont se rencontrer. Je vais mettre en contact. Ça, c'est donner. Je tombe moi sur une info qui moi m'intéresse pas, mais je sais parce que j'ai bien écouté qu'au moins j'ai deux potes. Cette info-là, sur ce pays-là ou sur cette techno-là, ils sont en train de chercher des choses dessus. Moi, ça me coûte rien. Je photographie. J'envoie le WhatsApp en disant, tiens, regarde, je viens de trouver ça en lisant tel truc, ça devrait t'intéresser. C'est ça, donner. Hein. C'est je donne par rapport aussi à la connaissance que j'ai du besoin, de l'attente, du désir, des centres d'intérêt de l'autre. Donc les gens, ils croient qu'ils donnent. Non, ils donnent pas, ils s'aiment. Et donc, faut jamais oublier que quelqu'un qui sème S-E-M-E, généralement, c'est qui sème S-A-I-M-E très fort, quoi. Hein. Ouais. Donc, non, il se fait, quelqu'un qui dit je mets des tas de contenus sur les réseaux sociaux, bon, ou, sauf si on est vraiment un pro de ça et qu'on en a fait un métier. Mais si on met des sujets, je prends l'exemple de LinkedIn, quelqu'un qui va poster des posts intéressants qui donnent envie sur LinkedIn, au bout d'un moment, il ou elle aura du retour. Voilà. Simplement, voilà, c'est pas mécanique. C'est pas mécanique. Ouais.
J'aimerais faire une petite transition vers l'optimisme, même si on en a parlé de manière sous-jacente, mais déjà comprendre qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé à ce thème de l'optimisme. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, Philippe a écrit notamment un livre qui s'appelle Éloge de l'optimisme, que je vous invite bien sûr à découvrir. Qu'est-ce qui fait que vous vous dites à un moment donné, je vais écrire un bouquin sur l'optimisme?
Ah, mais je me suis rien dit du tout. Je me suis rien dit du tout. J'avais été embarqué, avec beaucoup de bonheur d'ailleurs, et avec mon consentement, dans l'aventure qui a été la création de la Ligue des optimistes de France. C'était en fait une idée qui était née en Belgique. C'était un avocat bruxellois, Maître Luc Simonet, qui a créé ça. Il a lancé ça dans tous les pays du Nord et il cherchait à lancer ça en France. Moi, il avait vu mes vidéos sur la chance, tout ça. Il était en train d'essayer de trouver, de rassembler un petit groupe de gens intéressés par son projet pour lancer la Ligue des optimistes sur le territoire français. On est en 2010. Il m'appelle un jour en m'expliquant tout ça. Je trouve ça rigolo, mais bon, j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à ça, mais à la limite, why not? Et là, je me suis embarqué quand même dans cette ligue. Au départ, le bureau d'origine, c'était, la présidente, c'était mon amie France Rock, qui est éditrice, qui à l'époque était s'occuper des relations extérieures à l'Obs, et puis dans le lot, si vous voulez, c'était un groupe de gens, c'était Jean Dormesson, Eric Orsena, Éric-Emmanuel Schmid, Mathieu Ricard, etc.
C'est pas mal.
Bon, et tous ces braves gens, bien sûr, eux n'avaient absolument pas le temps d'écrire quoi que ce soit, et celui qui était le moins connu, et de loin, c'était moi, et France Rock, qui était la présidente, me dit, écoute, moi, elle a une maison d'édition qui s'appelle Saint-Simon, elle me dit, écoute, si tu me fais un bouquin sur l'optimisme, moi, je te l'ai dit, et on verra ce que ça donnera. Et donc voilà, je me suis lancé là-dedans, un peu comme un défi. J'ai écrit le bouquin sur l'optimisme, il a bien marché. Et puis je me suis retrouvé derrière, bombardé, mais j'étais le premier à le faire. Donc après, il y a eu des tas d'autres, mais j'étais un des premiers à le faire en langue française. Et voilà, donc là-dessus, demande de conférences, demande de participation à des émissions de télé, de radio, et ça s'est mis en place comme ça. Alors, je m'étais toujours intéressé dans le passé, en tant que prof de psychologie sociale dans le monde du travail, à tout ce qui était la motivation, l'énergie professionnelle, l'engagement, le rebond, la résilience, la gestion de l'échec, tout ça. Et c'est vrai que l'optimisme, quand on regarde bien, c'était quand même c'était un angle d'attaque tout à fait cohérent avec ce que j'avais fait les années précédentes et les décennies précédentes, en particulier autour de la motivation. Parce que moi, j'avais beaucoup travaillé dans les années 80 sur la motivation et la remotivation des vendeurs, des équipes commerciales qui étaient un peu en difficulté, etc. Et dans le fond, je me suis rendu compte à ce moment-là que j'étais un peu comme Monsieur Jourdain, vous voyez, dans Le Bourgeois Gentilhomme. Je faisais de l'optimisme sans le savoir depuis des années, mais j'avais appelé ça autrement. J'avais appelé ça remotiver, remonter le moral. Mais en fait, c'était, d'un point de vue cognitif, c'était l'activation des circuits mentaux de l'optimisme. Je crois que la plupart d'entre nous, on remonte le moral d'un copain ou d'une copine qui vient de se faire larguer, on remotive un collaborateur qui n'y croit plus, arrive à convaincre un jeune qui voulait quitter le lycée d'y rester. On active chez l'autre les circuits de l'optimisme, et en fait, on ne sait pas que ça s'appelle comme ça, et pourtant, c'est ce qu'on est en train de faire. Voyez, voilà. On fait de la prose sans le savoir.
Alors, je suis obligée de vous poser la question parce que pour l'amoureux de la littérature que vous êtes, écrire un livre, votre premier livre, ça devait quand même être un petit coup de pression quand même. Comment vous l'avez vécu?
Bon, d'abord, faut savoir que ça, c'était pas le premier. Parce que moi, j'avais mon premier bouquin, il est sorti en 89. J'avais mis des tas d'articles que j'avais fait. C'était sorti aux éditions d'organisation. J'étais dans le monde du commerce à l'époque. Ça portait un nom particulièrement kitsch, mais ça avait bien marché. Hein. Ça s'appelait « Les vendeurs nouveaux sont arrivés ». Voilà. Okay. Après, j'ai écrit des bouquins sur la prospective, des bouquins de management. Enfin non, j'avais produit des trucs. J'ai écrit des bouquins sur l'auto-formation et sur le monde des autodidactes, sur le futur. J'en avais fait des tas. Alors, premier livre grand public, c'était celui sur l'optimisme. C'est-à-dire qu'il ne s'adressait pas, et d'ailleurs, je n'ai plus jamais écrit une ligne qui ait un rapport avec l'entreprise. Donc là, c'était vraiment pour les gens. Et il y a eu une pression, mais c'était une pression au niveau du timing, parce que mon éditrice m'a dit ça la première semaine de juillet. 2010, et elle me dit, eh ben, voilà, il faut que le bouquin soit, j'ai le manuscrit sur mon bureau, le 15 septembre, parce que ah ouais. sinon il sera jamais sorti pour Noël. Et donc là, ma famille s'en souvient encore, je me suis mis à carburer, mais fortement, parce qu'il fallait que j'écrive, en fait, et le livre a été écrit...
Le pouvoir de la deadline.
Il a été écrit en 3 semaines chrono.
Incroyable.
La rédaction proprement dite. Et après, bon, il y a eu Éloge de la chance, j'ai fait Éloge de l'audace, L'art de changer de vie en 5 leçons, Éloge de l'incertitude, enfin voilà. Donc, de l'inattendu, pardon. Donc après, ça a continué. Alors, il y avait une pression, mais moi, j'adore ça. Hein. Je pense que écrire, c'est l'activité qui me plaît le plus, et ça sera au centre de mon activité de retraité, il y aura ça. Parce que j'ai des tas de projets d'écriture, des tas de projets de bouquins, donc là vraiment, pour moi, c'était une pression, mais c'est une saine pression. Et c'était la pression du gars qui va faire une course, il a dit, allez, je m'entraîne, j'y vais, je fonce, mais il y avait un stress, mais un bon stress, quoi, un stress joyeux.
Toutes ces notions, l'optimisme, l'audace, la chance, bon, elles sont liées évidemment. Et je pense qu'il y a une question que je voulais vous poser depuis le départ, c'est comment est-ce qu'on fait pour cultiver finalement tous ces états d'esprit, parce que j'ai l'impression que c'est un peu ça, dans nos vies où la vie, comme vous l'avez très bien dit, n'est pas toujours facile. Le discours ambiant aussi n'est pas toujours optimiste, plein d'audace. Le risque est quand même, et le principe de précaution sont érigés aujourd'hui quasiment en impératif catégorique. Et la chance, on se dit, elle est là, elle passe, ça nous tombe dessus. Mais bon, il y a une notion de déresponsabilisation qui est liée à ça. Donc, quand on est actuellement dans une phase où on a envie de se dire j'ai envie de cultiver finalement toutes ces valeurs qui sont importantes pour moi. Est-ce que vous auriez des conseils à nous donner concrètement pour essayer d'aller un peu plus dans cette direction?
Déjà, c'est compliqué de se lever le matin en disant « Allez, aujourd'hui je vais être optimiste ». Non,
c'est clair.
Franchement, c'est pas simple. En revanche, on peut parfaitement se lever le matin en disant « Aujourd'hui, je vais tenter, dès que je le pourrai, d'être un diffuseur d'optimisme. » C'est-à-dire que être optimiste pour moi honnêtement, je m'en tape un peu, quoi, parce que j'ai l'impression que j'ai toujours été. Donc, en revanche, moi, je veux être optimiste pour les autres. Moi, pour mes enfants, mes filles, elles cherchent des stages, elles ont elles aussi demandé. Être celui qui dit, tiens, regarde, on va regarder la situation différemment pour mes amis, pour les gens que je rencontre dans des conférences ou avec qui je discute après dans des débats, etc. Être quelqu'un qui va diffuser ça me semble intéressant, mais surtout faut bien comprendre que c'est quelques réflexes de base en fait très simples dans la vie de tous les jours. C'est dire voilà, il y a toujours plus de solutions qu'on ne le pense. Voilà, on est toujours plus libre qu'on le croit. Ça c'est le premier point de vue de l'optimiste, c'est celui-là, c'est de dire c'est non négociable. Il y a aujourd'hui des options, des solutions, des voies alternatives. Tu les connais pas encore totalement, tu les as pas totalement vues, mais c'est une hypothèse, je dirais, d'amélioration possible des choses. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on parlait tout à l'heure du fameux verre à moitié plein. Le verre à moitié plein, c'est une métaphore un peu cliché, un peu simplette, mais qui est quand même que, voilà, il existe dans le monde tout un tas de choses qui vont bien. Bon, ouais. Et on ne peut se nourrir en énergie, et même parfois, je dirais, si on est en colère face aux injustices, etc., cette saine colère face aux injustices, aux malheurs, etc., elle va nécessiter, pour pouvoir se transformer en quelque chose, de capitaliser sur des points forts, des alternatives, des choses qui fonctionnent. Essayer de regarder aussi ce qui va bien, mais ça ne veut pas dire que c'est facile. Hein. Aujourd'hui, vous en avez dit, j'allume la télé, et puis bon, c'est la guerre en Ukraine. Bon, ça c'est un fait. Et en ce moment même, à l'heure où on se parle, dans le monde, il y a un certain nombre de conflits qui sont en train de s'apaiser. Ça intéresse personne. Mais voilà, ils sont en train de s'apaiser. Mmh. Aujourd'hui, c'est un vrai problème, cette réforme des retraites, etc. Bon, il n'empêche que tous les jours, voilà, il y a des gens qui créent des structures, qui créent des boîtes, qui s'en sortent. La recherche scientifique continue d'avancer. Avoir un cancer il y a 10 ans et l'avoir aujourd'hui, c'est pas la même chose. Et dans 10 ans, ça sera encore une autre affaire. C'est-à-dire que le monde est plein de choses passionnantes, je dirais, qui montrent que c'est... que s'il y a une imbécilité structurelle, c'était mieux avant. Parce que si ça c'était vrai, ça voudrait dire que si tous les gens qui disent c'était mieux avant avaient raison, ça voudrait dire qu'il y a 500 ans c'était le paradis ici. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'on mourait à 30 ans, on voyait pas grandir ses enfants. On avait aucune possibilité de s'en sortir socialement ou de. Ben, voilà, ça c'était la cata. Donc les choses bougent plutôt positivement. Donc un, il y a des solutions. Deux, nos forces nous en apprennent quand même beaucoup plus sur la façon de nous en sortir que nos faiblesses. Et troisième élément, je dirais, l'action, je dirais, est toujours quelque chose qui est... nous sommes de toute façon tous, à un moment ou à un autre, libres d'agir. Donc, au quotidien, c'est aussi ça. Ça ne veut pas dire que par ailleurs, il ne faut pas compatir hein, au malheur du monde, il y a des choses très tristes qui se passent, etc. Alors, il y a de l'ambiguïté aussi là-dedans, parce que le rapport que nous, je dis nous, on est dans un pays quand même, qu'on le veuille ou non, qui est très protégé. Hein, on n'est pas. Moi, j'ai bien qu'il y ait de bon ton de râler, d'expliquer que, comme disait Sylvain Tesson, la France, c'est un paradis dont tous les habitants pensent qu'ils vivent en enfer. Mais on est pas mal ici. Et dès qu'on voyage, un peu, on dit bon, c'est beau ailleurs, hein, mais comment dire, c'est ici, quand même, il se passe des tas de trucs intéressants, quoi. On reste quand même dans un environnement, pour l'instant, en tout cas, qui reste assez protégé. Et c'est pas scandaleux de le reconnaître, quoi. Bon. Mais à côté de ça, le monde évolue plutôt dans le bon sens sur plein de choses. Alors effectivement, il y a des vrais gros problèmes. Réchauffement climatique, etc. Ça, c'est waouh. Bon, mais ok, il faut en tenir compte. Mais à côté de ça, au niveau mondial, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OCDE. C'est pas bon, on le mesure. La pauvreté dans le monde recule, la violence recule, la maladie recule. C'est-à-dire que on soigne de plus en plus de choses pour de moins en moins cher. Et voilà, et il se passe des tas de choses intéressantes hein, autour de nous. Et c'est vrai qu'en plus, est-ce que ça nous intéresse vraiment? Oui, un peu, mais nous sommes attirés comme des mouches hein, ou comme des moustiques par une lampe. On est attirés par ce qui va pas, comme si le spectacle des choses qui ne vont pas, parfois, nous rassurer. Oh là là là, les pauvres gens. Hein. Oh, heureusement qu'on n'est pas là-dedans. Hein. Oui, effectivement.
Oui, puis quand ça va bien, il y a un côté, il n'y a rien à voir, quoi. Alors qu'en fait, si, il y a à voir que ça va bien.
Le train qui arrive à l'heure ne m'intéresse que si c'était celui que je devais prendre. Ouais. Sinon, ça m'intéresse pas. Ben, je peux comprendre d'ailleurs. Hein. En revanche, ce qui est intéressant dans une success story, on préfère toujours les success stories, mais parfois les histoires d'échecs peuvent aussi nous apprendre plein de choses intéressantes. Dans le fond, je pense que les gens s'intéressent pas aux négatifs, contrairement à ce qu'on dit. Les gens s'intéressent aux dramatiques. C'est-à-dire que ce qui nous attire notre attention, c'est là où il y a de l'intensité, des émotions fortes, de la colère, de la peur, de la joie. De la surprise. Voilà, on carbure dans le fond à ça. Et c'est vrai que on trouvera davantage de surprises, de colère, de joie, de tristesse dans des événements parfois un peu extrêmes. C'est vrai.
Pour vous, Philippe, l'optimisme, toutes ces notions de d'état d'esprit, une fois de plus, ça vient d'où? C'est quelque chose qui est forgé dans notre enfance, c'est inné, ça se construit dans le temps.
Pour ce qu'on croit en savoir, parce que là, faut être prudent, il semblerait quand même que, et l'optimisme et le pessimisme d'ailleurs, hein, soient vraiment des dimensions qui sont, elles sont inscrites en nous. Quoi. C'est-à-dire qu'on, nous naissons dans le...
C'est
dans
pas appris, quoi.
Non. On a le progiciel que l'on a, vous savez, on est avec un cerveau qui est très très immature, mais il y a quand même des circuits, il y a des pré-circuits qui sont là. Et je pense qu'on a deux circuits qu'on a tous à la naissance, qui sont le circuit de la peur, parce que si on n'avait pas un circuit de la peur qui va nous apprendre à avoir peur pour nous enfuir, ben on survivrait pas. Et on a un circuit de l'espoir qui nous permet de nous projeter positivement dans un certain nombre de choses. Mais ces circuits, au départ, je garde la métaphore informatique, c'est du progiciel, ils ne sont pas paramétrés. Qu'est-ce qui va les paramétrer? Ben, la vie, quoi. Les parents, la famille, le milieu culturel dans lequel on est né, les événements de vie plus ou moins heureux ou plus ou moins tragiques qu'on a vécu, et qui font que progressivement, on va avoir une espèce de disposition, en tant qu'adulte, on a une disposition plutôt plus ou moins optimiste ou pessimiste qui va se constituer. Et donc, ça va devenir un trait de caractère qui fait que, voilà, il y a des gens qui sont ils ont le sentiment d'être des optimistes un peu ontologiques, et d'autres, on en voit dans les médias, qui sont des pessimistes en apparence. Bon. Mais tout ça est très simplificateur, parce que je dirais même le grand optimiste peut avoir des coups de blues et de doutes, et le pire des pessimistes peut de temps en temps se réjouir par rapport à un projet qui va aboutir. Bon. Donc ça vient effectivement, c'est clairement inscrit en nous, mais c'est vrai que c'est aussi un processus d'apprentissage. Et puis, ce qui va changer tout, c'est, on va dire, l'optimisme, mais l'optimisme en tant que méthode de relation avec autrui. Je m'explique. Vous savez, il y a cette expression en français qu'on connaît tous, qui est quand le jour où on devient papa ou maman, pour la première fois, on dit « attention, tu as désormais charge d'âme ». Bon. Mais il y a tout un tas de métiers, de fonctions sociales, où en fait nous avons charge d'état d'âme. Les enseignants, les soignants, les travailleurs sociaux, les parents effectivement, d'ailleurs des gens qui ont une responsabilité à travers ce qu'ils vont dire ou ce qu'ils vont faire, ils vont avoir un impact sur le moral des gens autour d'eux. Dès l'instant où on a charge d'état d'âme, parce que c'est notre job, quoi, voilà. Il faut bien comprendre que on peut parfaitement jouer la carte de l'optimisme, alors que soi-même, on l'est pas fondamentalement, mais on doit aux autres d'être des producteurs d'espoir, de confiance, d'enthousiasme, etc. Donc l'optimisme, c'est certes un trait de caractère, mais il faut savoir aller au-delà. Ça peut aussi être une discipline. Dire voilà, je crois que c'est Kundera qui dit ça, qui dit je préfère vivre en optimiste, délibérément vivre en optimiste et me tromper, plutôt que vivre en pessimiste pour la seule satisfaction d'avoir eu raison un jour, quoi. Donc voilà, il y a cette dimension là et je pense que on dit toujours, est-ce qu'on fait le choix de l'optimisme? Non, on fait pas le choix de l'optimisme, on fait le pari de l'optimisme. Se dire, tant qu'à faire, j'arriverai à tirer davantage des autres et de moi-même si je fais le pari de l'optimisme, parce que quelqu'un qui passerait sa vie à faire le pari de la défiance, le risque, la précaution, etc. Bon, dans son temps limité en ce monde, il ou elle aura peut-être fait moins de choses et aura surtout moins apporté aux autres. Voilà.
Le pari de l'optimisme, je retiens cette approche. Pour terminer, Philippe, j'ai un crible de questions que je pose systématiquement à mes invités. Alors, si vous acceptez de vous prêter au jeu, de faire ce pari, justement.
Bien sûr.
La première question, c'est est-ce que vous avez vécu dans votre vie un grand échec? Et puis surtout, ce qui m'intéresse plus, c'est quels enseignements vous en avez tirés? Est-ce que vous pourriez nous raconter ça?
Grand échec, une grande frustration, j'en ai une au tout début. Au tout début, parce que j'ai eu mon bac, j'avais 16 ans, et comme je vous disais, ma seule passion, c'était le théâtre. Et ma mère aurait été prête à m'accompagner là-dedans. Moi, je voulais devenir comédien. C'était la seule chose qui m'intéressait. Mais bon, voilà, j'étais dans un milieu protestant, bourgeois, bordelais. Bon. Et mon père, moi, je devais avoir 17 ans, et il m'a dit, écoute, non, t'es gentil, mais là, il y a eu un vrai... pourtant, on s'adorait, mais il m'a dit, écoute, non, tu vas commencer par faire Sciences Po et l'ENA, et puis le théâtre, on en reparlera un autre jour. Ça, pour moi, ça a été une vraie un vrai manque, que j'ai d'ailleurs compensé très rapidement, parce que 10 ans après, je suis devenu conférencier professionnel, j'ai découvert qu'on pouvait me payer des sommes assez conséquentes pour parler au public, et là, je dirais, ça a tout changé, puisque moi, aujourd'hui, je fais entre 80 et 100 conférences par an sur scène.
C'est incroyable.
Et j'ai vraiment l'intention de me frotter au vrai théâtre dans les mois qui vont venir. Mais ça a été un sentiment de flûte. Ça, j'aurais tellement aimé faire ça.
Donc ça a été... Et qu'est-ce que ça vous a appris? Vous pensez que ça vous a appris quelque chose quand même, cette expérience?
Ça m'a appris que, on dit toujours que en biologie, que la vie trouve toujours un chemin. Et moi, je pense que le désir trouve toujours un chemin. Vous voyez, quand j'étais petit, j'aurais voulu être médecin. J'étais tellement nul en maths, je pouvais pas l'être. Dans le fond, je me suis retrouvé dans une situation où je soignais les états d'âme des gens. J'aurais voulu être comédien, ça n'a pas pu se faire, et je me retrouve dans un métier où, en fait, je gagne ma vie en étant sur scène et en racontant des histoires. Voilà, donc je pense que quand on a un désir très fort, qu'on est animé par un désir très fort, la vie trouvera des occasions pour qu'on le retrouve, même si ce n'est pas exactement ce qu'on avait pensé au départ, il y aura une espèce de ligne de fuite qui fait que on s'y retrouvera. Mais après, des échecs, non, j'ai eu des choses qui ont mis du temps. J'ai été retardé, il y a eu des obstacles, etc. Et même, voyez, si j'ai eu un énorme échec professionnel, mais alors un truc monumental, quand j'ai quitté le monde du conseil dans les années, fin des années 80, je suis embauché par un de mes clients, qui était une très, 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 très grande entreprise française, très grande. Et moi, j'étais persuadé, parce que vu le salaire qu'il me proposait, j'avais 30 ans, mais c'était le bonheur, je savais plus où j'habitais, c'était incroyable, quoi, j'étais devenu, voilà. Ça a duré 2 ans, et il a fallu 2 ans pour découvrir un truc, c'est que j'étais vraiment pas fait, mais vraiment pas, ni pour les grandes entreprises, ni pour le management opérationnel, ni pour tout ça, c'était une cata. Et je me suis fait virer avec pertes et fracas au bout de 2 ans, mais je dirais, ça a été, factuellement, c'était un échec, puisque je me suis fait quand même virer d'une entreprise, je peux pas vous donner le nom, mais je me suis fait virer d'une entreprise qui avait quasiment jamais viré personne, tellement c'était une structure, quand on y rentre, on y meurt, quoi. Bon. Et moi, ils m'ont dégagé au bout de 2 ans. Et je pense qu'ils ont eu raison, parce que j'étais pas fait pour ça, et cet échec, en fait, je l'ai vécu comme tel pendant, allez, 1 mois. Et après, tout d'un coup, tous les gens avec qui j'étais en contact avant d'y rentrer ont pris contact avec moi, m'ont proposé des projets de folie, et 3 mois après, je faisais mon premier cours à l'ESCP. Donc voilà, c'était un vrai échec, mais que j'ai jamais vécu comme tel, quoi. C'était un inattendu, quoi. C'était un pépin. C'était la mouche dans le beurre, quoi. Voilà.
C'était pas un point d'arrêt, en tout cas.
Non, c'était pas un point d'arrêt.
S'il y avait quelque chose à refaire dans votre vie personnelle, professionnelle, qu'est-ce que vous referiez différemment ?
Alors, je vais revenir, on a parlé de Kundera tout à l'heure. Kundera a écrit un ensemble d'essais qui s'appelle « Les Testaments trahis » et dans lequel il y a un des essais qui s'appelle « Les chemins de brouillard ». Et il nous donne une image que je trouve intéressante, il nous dit la chose suivante. Vous et moi, nous avançons dans le brouillard. C'est-à-dire que on sait pas de quoi demain va être fait, mais être dans le brouillard, ça veut pas dire qu'on est dans l'obscurité. C'est-à-dire que on voit quelqu'un qui est en plein brouillard, par exemple, dans la purée de pois, il voit quand même la personne qui est à côté de lui. Il devine un peu des formes sur le bord du chemin. Et devant lui ou devant elle, à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Et puis à un moment donné, ça disparaît. Mais ce qui est fascinant dans la vie, c'est que quand on se retourne sur le chemin parcouru, il y a plus de brouillard. Puisque on sait ce qui s'est passé. Et on a tendance à juger celui qu'on était il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, en oubliant que lui ou elle, à cette époque-là, il était dans le brouillard où on est aujourd'hui. Donc, moi, je pense que, dans le fond, j'ai essayé de faire, et je pense que j'ai dû faire le mieux qui était possible à chaque fois. Alors, bien sûr, on pourrait toujours se réinventer des vies, mais c'est Nietzsche qui nous dit, l'éternel retour, c'est de se dire, j'ai vécu un truc, si je devais le revivre, j'aimerais bien le revivre de la même façon, parce que c'était ce qui devait être. Donc, et c'est vrai, je suis pas nostalgique pour dessous, moi. J'ai toujours eu le sentiment, pas d'avoir fait parfaitement, mais j'ai toujours le sentiment d'avoir fait de mon mieux. Avec ce qui m'arrivait, mes limites, mes carences, etc. J'aurais peut-être pu... Alors, bien sûr, je voudrais vous dire... J'aurais peut-être voulu, mais j'ai encore beaucoup de temps devant moi, hein, mais bon, c'est vrai, j'aurais peut-être pu lire davantage, j'aurais peut-être pu écrire davantage, et je pense qu'il y a une chose, en revanche, que j'ai pas su bien faire, faudrait que je m'ennuie davantage. S'ennuyer, ça c'est la lecture de Jean d'Ormesson qui m'a apporté ça, il dit parfois, la création passe obligatoirement par le fait de savoir s'ennuyer, et l'oisiveté va créer un processus créatif. Alors ça, j'ai bien l'intention de l'expérimenter dans les mois qui viennent. Je vous en reparlerai.
Je vous souhaite beaucoup d'ennui, alors Philippe. Une autre question pour vous, qu'est-ce que vous trouvez beau ?
Alors, je trouve beau la musique en général. Je trouve beau la nature. La nature. Et pourtant, je suis un homme des villes, hein. Mais j'aime bien autant y aller y habiter, c'est pas trop mon truc. Mais j'admire. Pour moi, la beauté de la nature, des sites naturels, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Donc la musique, les mots. Je suis un peux fondre en larmes en lisant à haute voix. Un extrait d'un texte, quoi. Autant d'ailleurs, je suis pas très sensible aux arts plastiques. C'est-à-dire que je dis ça parce que bon, c'est le contraire de mon entourage. Ma femme et mes enfants sont très peinture, dessin, sculpture, machin. Moi, pas du tout. Moi, c'est vraiment littérature, théâtre, poésie, musique. Et puis j'adore la beauté des gens. Les gens beaux, les hommes beaux, les femmes belles. J'aime beaucoup la beauté physique et qui est pas obligatoirement d'ailleurs, qui peut changer selon les cultures, selon les endroits où on est. Je suis très très sensible à ça. Et puis surtout moi, je me suis toujours réjoui de la beauté des autres. Ça, c'est un truc. Je trouve que je me réjouis que les gens écrivent des textes fabuleux. Mmh. Quand je trouve quelqu'un qu'en face de moi qui est bien, je suis content pour lui. Moi, je me suis toujours réjoui de l'existence de la beauté chez les autres. Et je ne sais pas l'expliquer d'ailleurs. Je sais pas pourquoi.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous irrite, qui vous met en colère?
Par rapport à ce qu'on disait au tout début, je suis de plus en plus irrité. Oh, c'est une irritation, c'est un irritant. Par le déni de responsabilité. Le fait de ne pas vouloir admettre que, dans le fond, on a souvent que ce qu'on mérite. Ça, je dirais, ça m'agace. Bon, allez, le ressentiment, ceux qui vivent en permanence dans l'envie, la jalousie, etc. Surtout l'envie, d'ailleurs. Parce que moi, la jalousie, on peut comprendre, parce que la jalousie, c'est quelqu'un essaie de me prendre un truc qui était à moi, et je suis d'accord. Mais l'envie, c'est-à-dire vraiment être l'autre, je lui dénie le fait d'avoir mieux que moi, parce que le fait qu'il est mieux que moi, c'est injuste. Ça, c'est quelque chose qui m'insupporte profondément. Parce que justement, j'aime trop la liberté. Je pense que beaucoup de gens vont gâcher du temps de vie en n'utilisant pas la liberté qu'ils avaient, juste parce qu'ils la voient pas, ou en refusant d'admettre qu'ils avaient quand même des zones de liberté et de marge de manœuvre. C'est ça que je trouve parfois agaçant. Mais c'est plus une, à la limite, c'est plus une réaction de tristesse que de colère. Et puis j'ai en horreur tout ce qui ressemble de près ou de loin à de la discrimination. Je peux comprendre que ça existe, mais je n'aime pas ça. Que ce soit toutes les formes de discrimination, hein, que ce soit le racisme, l'homophobie, la misogynie, etc. J'aime pas ça. Je suis très mal à l'aise avec ça.
Je comprends. Est-ce qu'il y a, Philippe, une cause qui vous tient particulièrement à cœur, dont vous pourriez nous parler?
Moi, j'ai eu la chance de rencontrer les gens d'une association qui s'appelle 60 000 Rebonds. Qui m'ont fait la gentillesse et l'honneur de m'accueillir au sein de leur conseil d'administration. 60 000 Rebonds, c'est une association qui va s'occuper de chefs d'entreprise qui se sont retrouvés suite aux accidents de la vie à la rue. Donc voilà, non seulement ils ont fait faillite, mais ça s'est enchaîné, c'est faillite personnelle, divorce, déménagement, dépression, etc. Et donc ça s'appelle 60 000 Rebonds parce que après la crise de 2008, il y a eu 60 000 faillites en France, 60 000 procédures collectives. Et là, cette année, on va en avoir 40 000 quand même encore. Ouais. Et quand on est un chef d'entreprise, ben, on n'a pas de couverture sociale, on n'a pas de chômage, on n'a rien. Et beaucoup de ces chefs d'entreprise qui sont des hommes ou des femmes qui ont pris beaucoup de risques pour les autres et pour eux-mêmes, et le jour où ils se retrouvent à la rue, c'est pas eux qu'on pensera en premier. Et 60 000 Rebonds, son action, c'est d'aider ces gens qui ont un jour ont pris un risque pour les autres dans la société à s'en sortir, à rebondir, à recréer, voire à retrouver un job. Donc ça, moi, je suis très très attaché à ça. C'est vraiment quelque chose qui moi est important. Et puis aujourd'hui, comme je vais continuer aujourd'hui à donner beaucoup beaucoup de mon temps, entre autres sur ce thème de l'optimisme, pour des causes comme la maladie chronique, la lutte contre le cancer, etc. Parce que je pense que le mental ne fait pas tout, mais je crois que on peut apporter beaucoup dans l'univers de la santé. Je peux apporter beaucoup aux gens dans cet univers-là. Si je peux donner quelque chose, ça sera avec un grand bonheur.
Et alors justement, Philippe, si jamais on veut s'intéresser à ce sujet avec vous, donc c'est 60 000 Rebonds.
60 000 Rebonds, il suffit d'aller sur Internet, c'est une grande association qui a des structures dans toutes les régions de France et ce sont que des bénévoles qui sont soit des coachs bénévoles, soit des chefs d'entreprise bénévoles et qui vont aider donc sur un processus qui est très normé, très structuré, qui vont aider ces chefs d'entreprise qui ont fait faillite sur la base du volontariat à redémarrer et on les remet sur pied à tout niveau en termes de santé, en termes de psychologie, etc. Et derrière, d'autres chefs d'entreprise les accompagnent pour recréer un nouveau projet, soit salarié, soit entrepreneurial. Donc c'est 60 000 rebonds et on tape 60 000 rebonds et on trouve tout ça. Voilà.
Ben je vous remercie, je vais aussi partager le lien. Quelques dernières petites questions pour vous. Est-ce qu'il y a, et ça c'est une question qui va vous plaire je pense, est-ce qu'il y a une citation, une maxime qui vous tient particulièrement à cœur, peut-être que vous vous répétez régulièrement, que vous pourriez partager avec nous?
Disons que ce que je crois vraiment, on en a déjà parlé, mais je pense que vraiment, notre temps étant limité en ce monde, on ne peut faire la différence qu'en signant un pacte de non-agression avec nos faiblesses et nos vulnérabilités, et en capitalisant avec ces alliés intérieurs que sont nos forces, nos compétences, nos savoir-faire, nos qualités. Ça, je crois vraiment à ça. De même que je continue à croire que les choses les plus intéressantes qui nous sont arrivées et qui vont continuer de nous arriver seront inattendues. Le réel est un ingrédient de vie qui est parfois amer, mais c'est un peu ce qu'on pourrait appeler la loi de l'endive. Vous savez, l'endive, quand c'est cru, c'est très amer, bien cuisiné, ça devient formidable. Donc la loi de l'endive, c'est qu'avec les choses les plus amères, si on sait les cuisiner, on peut en faire une recette intéressante. Voilà.
Écoutez, je retiens la loi de l'endive, j'aime beaucoup. est-ce que vous avez une croyance, Philippe, qui est controversée? C'est ma question un peu non politiquement correcte. Donc, concrètement, vous constatez dans les médias, autour de vous, en France ou ailleurs d'ailleurs, que vous êtes plutôt pas très d'accord avec une croyance que vous constatez de manière fréquente.
Ben oui, c'est ce qu'on s'était dit. Hein. Moi, l'idée selon laquelle c'est quand on est pauvre, c'est la faute au système. Non, je suis navré. Ouais. Non. Je pense que quand on est pauvre durablement, quand on est dans la détresse, il y a des causes extérieures, incontestablement. En revanche, ce qui est intéressant pour moi, c'est comment se fait-il que des gens pauvres s'en sortent? Qu'est-ce qui fait que des gens vont sortir? Qu'est-ce qu'ils ont fait que les autres n'ont pas fait? C'est vrai d'ailleurs pour la maladie. Moi, je crois aux exceptions positives. Je pense que ce qui m'intéresse, c'est les gens gravement malades qui s'en sortent, qui sont en rémission plus longtemps que les autres. C'est les gens qui sont dans la pure détresse sociale et qui vont s'en sortir, qui vont sortir de leurs conditions. Bien sûr, on dit, c'est des exceptions. Oui, mais c'est ça qui est intéressant. Le monde avance grâce à des exceptions positives sur des chemins négatifs. Voilà. Et c'est vrai que je crois à la responsabilité finale de l'individu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des contraintes sociales, qu'il n'y a pas des déterminismes, mais ce qui fait la dignité de l'être humain, c'est aussi d'aller contre les déterminismes que la société lui a imposés parfois, ou que les événements lui ont imposés.
Au fait qu'on peut devenir l'exception.
Ouais, on peut absolument. Et devenir une exception positive pour les autres, même ne serait-ce que pour ceux qui nous entourent, c'est déjà pas mal comme projet. Même si on reste une exception, puisque pas non plus, c'est bien beau de vouloir changer le monde, mais j'ai toujours été très prudent vis-à-vis de tous ces gens qui avaient voulu changer le monde autour d'eux, en rendant le monde immédiatement autour d'eux malheureux. C'est-à-dire que je pense qu'au bout du compte, moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même que les gens qui sont autour de moi, mes proches, ma communauté, tout ce que je peux leur apporter, faire tout ce que je peux pour leur apporter quelque chose. Je vais pas gâcher ce temps de vie tellement rare et qui se réduit tous les jours, sur des espèces de combats d'arrière-garde, quoi, ou sur lesquels je n'aurai aucune marge de manœuvre. Essayer de faire en sorte que le temps vécu ait été du temps utile.
Le temps vécu comme du temps utile, ça je retiens ces phrases. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez changé d'avis?
Entre autres sur celui-là, vous voyez, celui dont on parle là, parce que moi au départ, moi je viens de la sociologie quand même, je suis venu à la psycho sur le tard, donc moi je suis vraiment d'une génération qui est post-68arde, où c'est le social, nous sommes entourés de coercition, on est conditionné par les lois, par les conditions sociales, par la géographie, et c'est vrai que moi j'ai vraiment pendant longtemps j'étais très très orienté sur le social et le in fine c'est celui qui décide. Or je crois pas, je pense que le libre arbitre, même si c'est une croyance qui est philosophiquement discutable, je pense que quand bien même le libre arbitre serait une illusion, c'est une illusion utile parce qu'elle nous permet d'échapper au désespoir. Donc c'est en ce sens, je pense qu'elle est intéressante. Et de même, je pense aujourd'hui, je me souviens quand j'ai lu le livre d'Henri Laborie, La Nouvelle Grille, j'ai mis un certain temps à comprendre aussi que on était effectivement un mental, un psychisme, une psychologie, mais on est aussi un corps. Et je crois que dans l'humeur, par exemple, vous voyez, dans notre humeur, la dimension physiologique est aussi importante. Et nous sommes un organisme qui est un organisme, on va dire, bio-socio-historique. Mais on a aussi une réalité biologique. Et c'est vrai que, voilà, je suis un gars plutôt positif, mais je pense que ce que mon médecin me dit, c'est que je suis aussi positif parce que j'ai une biochimie qui fait que brutalement, on se met à avoir les uns les autres des problèmes hormones, de carence en fer, en vitamines, etc. Brutalement, l'homme ou la femme qui était le plus positif au monde se met à broyer du noir. Mais c'est pas psychique, hein. C'est son corps qui est en train de le trahir.
Hyper intéressant. Dernière question pour vous, Philippe. Est-ce qu'il y a un livre? C'est très dur comme question, parce que un livre, c'est quand même pas facile. Alors, je vous en accorde peut-être deux, mais un ou deux livres qui vous ont particulièrement marqué, qui vous ont peut-être changé, qui vous ont fait réfléchir, que vous pourriez nous recommander et puis surtout nous expliquer pourquoi ils ont eu un tel impact sur vous.
Alors, moi, je vois, il y en a deux. Donc, pas de, la bord est pas toujours, mais quand même. Bon, il est clair que, philosophiquement parlant, moi, le jour où j'ai découvert le philosophe contemporain Clément Rosset, qui nous a quittés il y a 2-3 ans maintenant, pour moi, Clément Rosset, qui était vraiment un philosophe du réel, ça a été une découverte. Et entre autres, un de ses livres, je pense que s'il y a un livre à lire de Clément Rosset, c'est ce qui s'appelle La Force Majeure. Parce que la force majeure, c'est la joie. Et elle dit voilà, pourquoi il est absolument nécessaire de cultiver la joie au quotidien, avec soi et avec les autres, parce que c'est la force majeure face au désespoir. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un... Rosset, de toute façon, est quelqu'un qui a, avec cette espèce d'amour qu'il avait, de dire, voilà, regarder le réel, c'est aussi, paradoxalement, se maintenir dans une logique de joie de vivre par rapport à ce qui est. Donc, la force majeure de Rosset, ça, c'est vraiment un truc important. Et alors, il y a un autre livre que j'avais lu, mais alors, je l'ai découvert en deux fois. Ça, c'est assez intéressant. Il y a un philosophe, un grand spécialiste de la Chine, qui s'appelle François Julien, qui avait écrit un ouvrage qui s'appelait Le traité de l'efficacité. Le traité de l'efficacité montre, à partir d'une analyse assez pointue de la pensée chinoise classique, que pour devenir maître de sa destinée, dans le fond, être efficace au quotidien, il faut d'abord et avant tout se mettre dans une disposition qui va nous permettre de surfer sur les événements, et comment est-ce qu'en fait se constitue à l'intérieur de l'esprit humain un rapport très positif à l'inattendu, aux opportunités. Mais dans le traité de l'efficacité, qui est vraiment un ouvrage de philosophie, c'est, comment dire, quand on le lit, la pente du savoir est abrupte quand même, hein, voilà, c'est un peu compliqué.
Et il est pas, oui.
Voilà. En revanche, le même François Julien a publié quelques années après un tout petit bouquin, voilà, si les gens peuvent on le retrouve assez facilement, qui s'appelle Conférence sur l'efficacité. Parce qu'en fait, il devait faire des conférences sur ce sujet-là devant des chefs d'entreprise. Donc, comme on le sait, des gens d'entreprise comme moi, donc des gens totalement déculturalisés. Et donc, il faut quand même aller à l'essentiel. Et
bon, c'est comme Sartre avec l'être et le néant et l'existentialisme et ton humanisme. Quoi.
Et moi, je conseille, si vous, les gens peuvent lire, allez essayer de trouver Conférence sur l'efficacité, qui est un petit ouvrage paru au PUF, hein, sauf erreur, donc c'était pas c'est facile à trouver. Vraiment, étaient des livres intéressants. Puis à côté de ça, moi, il y a des auteurs, si vous voulez. Moi, j'ai toujours adoré Pascal Bruckner, qui a toujours eu une influence sur moi très très importante. Mais étant plutôt un homme de littérature, c'est plutôt au niveau des romans. Moi, je suis un très grand lecteur de Simenon et des romans durs de Simenon, qui prennent une place très très importante, moi, dans mon panthéon culturel personnel. Voyez, voilà. Mais c'est vrai que au niveau des essais, c'est en tout cas la force majeure et la conférence sur l'efficacité dans la force majeure de Clément Rosset et la conférence sur l'efficacité de François Julien sont pour moi des ouvrages absolument essentiels.
Bon, alors je suis obligé de vous poser la question, s'il y avait un roman?
Oh, je pense que alors je dirais que il y en a deux que je trouve très 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 originaux. Il y a Lettre à mon juge. Dans les romans durs, il y a Lettre à mon juge, où le gars écrit la lettre à son juge pour lui expliquer pourquoi il a fait ce qu'il a fait que tu aurais pas dû faire. Et alors un qui est très drôle, c'est qui s'appelle Les Mémoires de Maigret, dans lequel en fait Maigret raconte comment il a rencontré Simenon. Et sachant que bien sûr c'est écrit par Simenon. Donc ouais. Ça, c'est des choses qui sont assez assez drôles. Et d'une façon générale, moi j'ai toujours adoré les romans de les romans où les gens allaient un peu au bout d'eux-mêmes. Quoi. J'ai adoré par exemple un gars qui est moins lu maintenant, mais qui était un des compagnons de route de Michel Audiard, qui était Alphonse Boudard, qui raconte en fait toutes ses années à l'hôpital, toutes ses années en prison. Et ce gars-là, qui était un délinquant, bon, comment est-ce qu'il s'en est sorti et qu'il est devenu un grand écrivain contemporain. Ça fait partie des choses moi qui m'ont toujours passionné. Et vraiment, je suis toujours à la recherche de ça. Mais sinon, ça me prend du temps quand même, hein, parce qu'il en a fait vraiment beaucoup.
C'est clair que vous n'avez pas choisi le moins prolifique. Voilà. Philippe, je vous remercie.
L'honnêteté oblige à dire, je m'y suis pas encore mis, mais par curiosité, je vais me lancer dans Annie Ernaux, parce que je me dis, voilà, elle a eu le prix Nobel de littérature. Nobel, ouais. C'est pas possible qu'il va. Et alors, les quelques choses que j'avais lues d'elle, elle paru un peu bien. Je m'y remets. Donc, j'ai quelques auteurs comme ça, vous voyez, Annie Ernaux, Modiano, tout ça. Je vais me replonger dedans. Voilà.
Il faut s'y mettre.
Voilà.
Mais parfois, avec le temps aussi, on voit les choses différemment. Donc.
Absolument.
Philippe, je vous remercie mille fois pour votre temps, justement. C'était bien sûr passionnant. Alors, pour les personnes qui nous écoutent, je suis sûre qu'il y en a énormément qui voudront continuer à suivre toutes vos inspirations, tout votre optimisme. Où est-ce qu'on peut vous trouver ? Donc, vous avez un site, Philippe Gabillet.
Oui, j'ai un site philippegabillet.com où il y a plein d'extraits vidéo, des revues de presse, quelques articles, etc. J'ai une page LinkedIn. Puis, de toute façon, si on tape Philippe Gabillet sur Google, alors là, comme disent mes enfants, j'encombre. Voilà.
Vous encombrez, mais pour notre plus grand bonheur. Philippe, voilà. Je vous remercie mille fois pour votre temps et à bientôt.
Merci beaucoup et j'espère à très bientôt, Pauline.
Bye bye les amis, c'est la fin de cet épisode, mais avant de vous quitter, quelques détails en plus. D'abord, pour toutes les infos sur le podcast et cet épisode, ça se passe sur paulinegno.com, vous aurez tout promis, juré. Aussi, si vous souhaitez me contacter pour me poser des questions ou me proposer de nouveaux invités, eh bien n'hésitez pas à le faire directement sur LinkedIn, Instagram ou YouTube, je vous attends. Enfin, encore mille merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère de tout cœur que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.